Bonjour, je suis Danilo Dugène et je souhaite la bienvenue sur le rendez-vous marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS Digital, l'agence Social Ads experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques jeunes ou établies à accélérer leur croissance. Pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur DHS Digital pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui, je vous enregistre l'un des épisodes les plus importants de l'année parce que le contenu que vous allez en retirer va tout simplement vous permettre de prendre des meilleures décisions d'investissement en publicité. Alors quand on sait que le Q4 démarre dans quelques semaines, autant vous dire que ça devrait vous être utile. Alors comment va s'articuler l'épisode ? Eh bien concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tous les indicateurs que nous on regarde donc avec l'agence pour mesurer la croissance d'un business et son évolution dans le temps. On les divise en trois types. On a les données business, les données e-commerce et les données plateforme. Et ces indicateurs nous permettent de savoir si on investit notre argent intelligemment, s'il nous reste du budget à investir pour aller chercher plus de croissance, si on amène suffisamment de nouveaux clients dans le business et si on n'est plus dépendant de l'acquisition ou de la rétention pour générer de la croissance et finalement si c'est un problème. Ça, c'est concrètement ce que nous permettent de retirer ces indicateurs. Donc, c'est des informations qui sont quand même cruciales quand on fait du marketing en ligne. Et par la suite, je vous donnerai un use case rapide pour vous permettre d'éviter une grosse erreur en media buying qui est ben justement de prendre des décisions d'investissement sur base des mauvais indicateurs parce qu'il y a tellement d'indicateurs qu'on peut analyser finalement qu'on ne sait plus trop par lesquels passer. Est-ce qu'on va regarder le NCAC ? Est-ce qu'on va regarder le ROS, le CPA, le MER ? Enfin, il y en a tellement que je voulais vraiment prendre le temps en fait, de revenir sur chacun de ces indicateurs, leur importance, comment les interpréter, comment les utiliser. Et je vous propose de commencer dès maintenant en démarrant par les données business qui sont ben, finalement les données qui ne mentent pas, on va dire. C'est des données, quand on les analyse, ça nous dit si oui ou non, on va dans la bonne direction. La première, ben, sans surprise, ça va être le chiffre d'affaires hors taxe, qui est pour moi une métrique qui ne ment pas. Donc c'est-à-dire que si on fait un mauvais chiffre d'affaires, bah c'est que forcément, il y a eu un problème quelque part. Pour moi, le chiffre d'affaires, on va le piloter à la semaine ou au mois selon les budgets qu'on investit. Évidemment, plus on investit des budgets, plus on va regarder notre chiffre d'affaires hors taxe de manière très fréquente. On peut le regarder tous les jours ou alors tous les trois jours ou toutes les semaines. Ça va un peu dépendre de comment on veut faire notre analyse. Deuxième point par rapport au chiffre d'affaires hors taxe, c'est que je vous conseille de comparer son évolution de deux manières. Soit regardez l'évolution du chiffre d'affaires hors taxe mois après mois, donc c'est-à-dire vous allez comparer votre chiffre d'affaires hors taxe en septembre vs le mois d'août. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il y a des grandes chances que vous ayez plus de chiffre d'affaires en septembre qu'au mois d'août pour un même investissement. Parce que le mois de septembre, naturellement, on fait plus de ventes qu'au mois d'août puisqu'il y a beaucoup de vacances. Hormis quelques cas exceptionnels, la majeure partie des business font moins de ventes en août. Donc vous allez me dire, mais c'est pas forcément intéressant de regarder le chiffre d'affaires hors taxe d'un mois à l'autre puisque finalement, c'est quand même assez dépendant de la saisonnalité. Et vous avez raison. Et donc, ce que je conseille d'avoir comme grille d'analyse, c'est toujours de regarder votre chiffre d'affaires hors taxe année après année. Donc on appelle ça le year over year. Donc c'est-à-dire que vous allez par exemple regarder votre chiffre d'affaires hors taxe en septembre 2024 et vous allez regarder par rapport à septembre 2023. Et là vous allez vous dire, ok, est-ce que je suis en augmentation ? Est-ce que je suis en diminution ? Est-ce que je suis stable ? Si on est stable, bon, ça va, mais après ça dépend. Est-ce qu'on a investi plus ? Est-ce qu'on a investi moins ? Est-ce qu'on a investi la même chose ? Mais si on est en descente, là c'est qu'il y a un problème. Et si on est en augmentation, ben ça c'est une bonne chose. Après, certains business veulent faire du 20%, comme d'autres veulent faire du 100%. Ça dépend un peu du rythme de croissance que vous souhaitez avoir. Donc ça, c'est le premier point. Je me suis un peu étendu, mais c'est important quand même de comprendre comment on fait ce genre d'analyse. Deuxième point, le deuxième indicateur, c'est la marge brute, qu'on appelle aussi marge contributive. Donc c'est très simple comme indicateur. C'est simplement le chiffre d'affaires hors taxe moins tous les coûts liés à la fabrication et l'envoi des produits. Donc il va y avoir les coûts de fabrication du produit. Donc quand on va chez notre logisticien, on doit payer des coûts de production. On va avoir également les coûts d'envoi du produit, donc pour les amener chez le client. Et également tout ce qui concerne les commissions qu'on va payer aux plateformes et aux plateformes de paiement comme Stripe ou enfin, peu importe la plateforme que vous utilisez. Une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'une bonne marge brute ? Est-ce que c'est 50% ? Est-ce que c'est 80% ? La réalité, et d'après ce que j'ai entendu, c'est que une bonne marge brute, elle doit être au-dessus de 75%. Ça ne veut pas dire que si vous êtes un peu en dessous, que vous avez raté votre business, mais simplement que si vous avez une marge brute qui est très élevée, bah ça va vous laisser beaucoup plus de latitude dans les investissements que vous allez faire pour que ce soit du marketing ou simplement bah, pour permettre de faire fonctionner votre business avec certains logiciels, certains coûts fixes comme les bureaux, des ressources humaines. Et donc voilà, tout ça pour vous dire, plus vous avez une marge brute qui est élevée, au mieux. Moi, je vous dirais, idéalement, c'est bien d'être au-dessus de 55, voire 60% du chiffre d'affaires hors taxe, parce que, comme je vous le disais, ça vous permettra d'être plus serein quant au budget que vous allez investir pour de l'acquisition. Voilà, donc ça, je pense vous avoir tout dit par rapport à ça. Donc ça, vous pouvez suivre évidemment son évolution mois par mois, mais ça va être variable d'un mois à l'autre, puisque bah, à un certain moment, vous allez payer plus de stock que d'autres. Point numéro 3, donc l'indicateur numéro 3, c'est la marge nette ou marge contributive 2. Donc celui-là, on le regarde beaucoup, beaucoup plus que le MC1, parce que celui-ci, on a un peu plus de, je vais pas dire de contrôle, mais c'est là où nous, on intervient. C'est-à-dire qu'en gros, la marge contributive 2, c'est simplement la marge brute, donc le MC1, moins les coûts marketing traqués. Donc c'est-à-dire le budget qu'on investit en acquisition et en production créative. Donc là ici, je vais faire la même chose, je vais vous donner un benchmark pour la MC2. Et le benchmark que j'entends le plus souvent pour la MC2, c'est que si vous avez une MC2 qui est entre 25 et 35%, on peut dire que vous faites bien votre travail. Et cette marge nette, donc cette MC2, elle est fondamentale pour piloter notre rentabilité publicitaire parce que bah, on va regarder régulièrement si on est bah, au-dessus de ce fameux seuil qu'on va se fixer. Est-ce que c'est un seuil à 35%, à 30%, à 25%? Peu importe. Et en général, on va regarder cet indicateur de façon hebdomadaire ou mensuelle en fonction du volume qu'on investit sur les plateformes d'ads, comme je vous le disais. Et enfin, on va avoir comme quatrième indicateur la marge contributive 3, qu'on appelle aussi le bénéfice. C'est simplement la marge nette moins les coûts fixes. Donc celui-ci, nous, en tant qu'agence, on a un peu moins de recul par rapport à ça, parce qu'on ne connaît pas toujours les coûts fixes de nos clients, mais vous les connaissez, hein, bien sûr. Donc vos coûts fixes, ça va être vos frais d'agence, ça va être les ressources humaines, donc les personnes que vous... Enfin, les salaires, ça va être les bureaux, ça va être les logiciels, enfin tout ce qui est des coûts fixes nécessaires à la pérennité de votre activité en ligne. Je précise, c'est tous les coûts fixes qui sont attribuables à l'e-commerce si vous voulez bien faire le calcul. Et donc ça doit être évidemment bah, votre étoile polaire, c'est l'indicateur phare. C'est de regarder à la fin du mois, est-ce que je fais finalement du bénéfice en retirant tous mes coûts. C'est bien de regarder la marge nette. Nous, on va regarder pour certains de nos clients qui nous donnent cette information-là, on va beaucoup plus regarder la MC2. Donc on va regarder le profit brut, donc la marge brute, pardon, moins l'éco-marketing qu'on peut ajouter dans notre logiciel de pilotage qui s'appelle Polar Analytics. Et à partir de là, on regarde si on est sur MC2, une MC2 qui est élevée par rapport à ce que le client nous demandait. Donc ça, c'est comme ça que nous, on travaille en tout cas. Et je pense avoir tout dit par rapport aux données business. Donc ça, c'est encore une fois, comme je vous le disais, des données qui ne mentent pas. Maintenant, on va aller un peu plus vite parce que j'ai fait le plus dur. On va passer aux données e-commerce. Donc celles-là, vous les regardez peut-être encore plus et elles sont plus simples à analyser, à comprendre. La première, ça va être le panier moyen d'achat. Le panier moyen d'achat, c'est simplement le chiffre hors taxe divisé par le nombre de commandes. Donc là, pareil, pour moi, il faut faire la distinction entre le panier moyen nouveau client et le panier moyen client existant. Donc la seule différence, c'est que pour le nouveau client, vous allez prendre le nouveau client divisé par le nombre de nouvelles commandes. Et pour le panier moyen client existant, vous allez simplement prendre le chiffre d'affaires hors taxe des clients existants divisé par le nombre de commandes récurrentes. Le panier moyen, bah, comme vous le savez, il peut évoluer grâce à des lancements de produits, grâce à des bundles, grâce à la saisonnalité, grâce à des optimisations CRO. Donc moi, je vous conseille de le suivre mois par mois. En tout cas, moi, même pour mon agent, je regarde chaque mois si notre panier moyen, il évolue. Parce que, ben, évidemment, plus on arrive à faire grossir, à faire augmenter notre panier moyen, plus il y a de chances qu'on soit rentable quand on fait l'acquisition, mais qu'on soit pérenne dans le temps, puisque les coûts d'acquisition n'ont de cesse que d'augmenter. D'accord ? Donc ça, vous devez regarder régulièrement et évaluer également si ce panier moyen, il est plus élevé pour un client existant. Donc ça, j'aime beaucoup le regarder quand j'analyse un e-commerce, c'est est-ce que les clients de mon e-commerce, de mon client, pardon, est-ce qu'ils achètent sur des montants plus élevés que les nouveaux clients ? Si c'est le cas, bah c'est évidemment une très bonne nouvelle parce que dès que vous avez acquis un nouveau client, vous savez qu'en moyenne, il va acheter plus qu'un nouveau client. Donc quand il a fait sa deuxième commande. Et ça, c'est une très bonne chose, puisque vous ne devez pas payer une seconde fois pour qu'il revienne. D'accord ? Donc panier moyen, important. Taux de conversion, bah simplement le nombre d'acheteurs divisé par le nombre de visiteurs. Le seul point que je vais vous ajouter par rapport à ça, c'est qu'il faut évidemment le suivre mois par mois ou semaine après semaine, ça dépend comment vous faites votre analyse. Et gardez en tête que le taux de conversion organique, c'est généralement le plus élevé et c'est vers celui-ci qu'on veut tendre. Vous allez voir que si vous regardez votre taux de conversion SEO ou direct, il va être beaucoup plus élevé que le taux de conversion sur Google Ads ou sur Facebook Ads. Et donc, qu'est-ce qu'on veut ? C'est qu'on veut se rapprocher le plus possible du taux de conversion organique. On passe au troisième indicateur e-commerce qui est le nombre de nouveaux clients. Donc celui-là, c'est un indicateur à surveiller de très près puisqu'il y a des mois où vous allez rentrer moins de nouveaux clients que d'autres. Bah, typiquement, les mois d'été, pour la plupart des business, c'est des mois qui sont moins bons et c'est normal puisque la saisonnalité, elle y est pour quelque chose. Mais également, vos offres et lancements, ils sont aussi pour quelque chose. Donc c'est-à-dire que si vous faites des gros lancements en début d'année, a priori, vous allez rentrer plus de nouveaux clients que le moment où vous êtes... c'est un peu la période creuse pour vous, comme je vous le disais, durant l'été ou peut-être à la fin du mois de décembre. Justement, parce que je parle de ça, ben, le Black Friday, le mois de décembre, c'est aussi un moment où les e-commerçants vont aller chercher beaucoup de nouveaux clients. Donc c'est pour ça que vous devez surveiller. Mais le problème du fait de regarder simplement le nombre de nouveaux clients, c'est que ben, vous pourriez rentrer plein de nouveaux clients, mais si ces nouveaux clients vous coûtent trop cher, ben, c'est peut-être pas intéressant parce que vous allez cramer trop de cash. Et donc c'est pour ça que vous devez également surveiller ce quatrième indicateur qui est le coût d'acquisition client, qui consiste à prendre toutes vos dépenses marketing et les diviser par le nombre de ventes. Donc le nombre de ventes total, le nombre de commandes. Donc si vous dépensez par exemple 20 000 euros par mois sur Facebook, Google, TikTok, peu importe, et que vous divisez par le nombre de ventes, donc par exemple vous avez 1000 ventes, eh bien vous avez un coût d'acquisition client de 20 euros. Cet indicateur-là, c'est généralement l'indicateur le plus connu en e-commerce et qu'on regarde le plus. Donc certains le regardent encore une fois toutes les semaines, d'autres tous les jours, d'autres tous les mois. Ça dépend un peu des investissements que vous faites. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment regarder à l'œil parce que si on est au-dessus de notre objectif de coût d'acquisition, eh bien ça veut dire qu'on doit potentiellement ralentir l'investissement parce que malheureusement, aller chercher un nouveau client nous coûte trop cher. À l'inverse, si on est en dessous, ça veut dire qu'on peut potentiellement augmenter l'investissement puisqu'on est en dessous du coût d'acquisition cible. Donc si on est en dessous de ce coût d'acquisition cible, on peut dépenser plus pour aller chercher plus de nouveaux clients, même si ce coût d'acquisition augmente un peu du moment qu'il reste en dessous du coût d'acquisition client cible que vous êtes fixé. Le problème par rapport au coût d'acquisition, c'est qu'il ne reflète pas forcément toute la réalité de votre acquisition. Je m'explique. Si vous avez une plus forte part de vos ventes qui proviennent de clients récurrents un mois donné ou une semaine donnée parce que vous avez fait une grosse opération marketing, une grosse promo ou que c'est l'anniversaire de votre marque, en fait, vous allez voir que vous allez faire beaucoup de ventes récurrentes. Donc, vous allez fortement augmenter le nombre de ventes récurrentes par rapport à votre proportion habituelle. Et donc, ça va faire diminuer votre CAC et vous aurez l'impression que vous avez un très, très bon CAC et que vous pouvez investir plus d'argent sur les plateformes. Ce qui est en soi, c'est vrai, mais vous devez quand même regarder votre NCAC, donc qui est le cinquième indicateur que je vais vous présenter, qui est le coût d'acquisition nouveau client. Et ça, pour moi, c'est celui-ci qu'il faut vraiment regarder en priorité, c'est combien me coûte l'acquisition d'un nouveau client. Et donc, le coût d'acquisition nouveau client, vous l'avez deviné, c'est toutes les dépenses marketing divisées par le nombre de nouveaux clients. Et celui-ci, nous, c'est vraiment c'est l'indicateur qu'on regarde le plus pour les clients qui nous donnent, on va dire, toute la visibilité sur leur e-commerce, où nous, on va regarder vraiment où est-ce qu'on en est au niveau du coût d'acquisition nouveau client. Et c'est une donnée qui ne ment pas. Là, sur le coup, ça ne ment pas. C'est pas comme le CAC où ça peut mentir un peu si on a une très forte part de revenus récurrents qui surviennent d'une opération marketing ou de plusieurs emails qui ont été envoyés. Là, le coût d'acquisition de nouveaux clients, s'il est trop élevé sur une semaine ou sur un mois, ça veut dire qu'on n'a pas bien fait notre travail. D'accord. Sixième indicateur, donc là c'est un autre indicateur qui est pas mal aussi de regarder puisque ça permet de regarder les choses du point de vue d'un ratio et plus seulement d'un coût, c'est le Marketing Expense Ratio qu'on appelle le MER, qu'on appelle également le Blended ROS. Et donc le MER vous permet d'évaluer l'efficacité de vos efforts publicitaires, donc c'est-à-dire vos efforts sur Facebook, Google, TikTok, en combiné de manière globale. Et évidemment, qu'est-ce que vous voulez ? C'est que vous voulez avoir un MER qui est élevé, puisque si quand vous investissez 1 euro, vous en récupérez 6, c'est mieux que si vous en récupérez 4, peu importe le business, peu importe les coûts variables. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que plus le business a des coûts variables qui sont importants, donc ça veut dire que votre marge brute, elle est faible, moins il peut dépenser en acquisition, et donc plus il doit avoir un MER élevé. Donc en gros, si vous avez une marge brute, par exemple, à 60%, vous aurez besoin de générer des MER plus élevés que si vous aviez une marge brute à 80%. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est mieux d'avoir une marge brute plus élevée parce que ça vous permet d'avoir plus de latitude sur vos investissements et vous êtes un peu moins sous pression à devoir faire des MER qui sont très élevé. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le MER de votre site, enfin de votre e-commerce, peut aussi varier selon les périodes. Donc, par exemple, en période de solde, on va vouloir un MER qui est plus élevé parce qu'on fait moins de marge sur la vente des produits, vu qu'on fait des soldes. D'accord ? Donc ça, il faut également le prendre en compte et se dire que le MER, on peut le regarder sur une année, mais c'est bien d'avoir des objectifs de MER chaque mois en fonction de ce qu'on s'attend à faire en termes de marge brute. Donc là, ça devient un peu complexe, je le sais, mais je vais au moins vous donner le maximum d'indicateurs possibles et de réflexion pour que vous puissiez bien comprendre l'importance de ces indicateurs. Donc nous, le MER, on le regarde, mais pas autant que le NCAC. Ce qu'on regarde beaucoup, de plus en plus, c'est le M New Customer. Donc c'est un peu la même chose finalement que le NCAC, sauf que c'est dans ce cas-là un ratio. Donc là, on prend le chiffre d'affaires hors taxe nouveau client divisé par les dépenses en acquisition et en créa. Parce que comme je vous le disais, comme pour le coût d'acquisition client, le MER il reste influencé par votre stratégie de rétention. Donc c'est-à-dire que si vous faites beaucoup d'emailing et que vous faites une grosse offre promotionnelle envers vos clients, bah, qu'est-ce qui va se passer au niveau du MER? Bah, c'est que celui-ci va augmenter très fortement. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est grâce à la publicité. Donc on est un peu sur le même problème que sur le N. Et par contre, quand on regarde le MER New Customer, ben lui, quand vous faites une grosse promotion, il peut augmenter puisque potentiellement les nouveaux clients voient que vous faites une promotion importante et se disent « Ok, je passe à l'achat », il peut rester stable ou il peut diminuer. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc si on reprend l'exemple de la promo, si votre MER New Customer, il augmente ou reste stable malgré la promo, ou l'opération marketing, bah là c'est une bonne chose et ça veut dire que vous pouvez augmenter vos budgets. Et si à l'inverse le MER New Customer diminue ou en tout cas n'est pas dans vos objectifs, là je ne vous conseille pas d'augmenter vos budgets. Donc vous comprenez que c'est toujours plus intéressant quand on prend une décision de quand même regarder également le MER New Customer pour ne pas trop se faire avoir. Quand on fait une très grosse opération marketing, on fait des très bons résultats sur les clients existants et on se dit « Ok, je vais doubler mes budgets en acquisition et ok, le MER global va aussi diminuer. » Et on va dire « Ok, j'ai fait plus de chiffre d'affaires, mais j'ai diminué ma rentabilité. » Alors que si on regarde le MER New Customer, là, on est sûr de prendre une bonne décision d'investissement puisque on va regarder uniquement le ratio de chiffre d'affaires qui est généré par rapport à l'investissement sur des nouveaux clients. Et c'est ça qui est important finalement, c'est qu'on va aller chercher des nouveaux clients. Et donc, juste pour terminer là-dessus, si on constate que notre MER New Customer, il augmente ou il est en dessous de notre objectif, bah, on se permet d'augmenter les budgets parce qu'on voit simplement qu'il y a une bonne tendance sur le site. Donc j'espère que vous avez bien compris ce dernier point. Et les deux derniers indicateurs que je vais vous donner sur la partie e-commerce, c'est le cost of sales, le COS. Et c'est exactement le même principe que pour le MER, sauf que c'est l'inverse. C'est simplement prendre vos dépenses d'acquisition et vos dépenses en créa et les diviser par votre chiffre d'affaires hors taxe. Donc là, cette fois-ci, en fait, on va regarder nos dépenses marketing en se basant sur un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc si par exemple je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, je dépense 20 000 euros en acquisition et en créa, j'ai donc un cost de 20% et donc ça veut dire que mes investissements marketing représentent 20% de mon chiffre d'affaires hors taxe. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est très simple, c'est que plus une marque génère un volume de chiffre d'affaires qui est élevé, moins le cost il va être important parce que cette marque a plus de coûts fixes, donc a plus d'employés, elle a plus de notoriété, donc elle fait beaucoup de ventes sans la publicité. Elle a aussi beaucoup de ventes qui proviennent de clients existants, ce qui lui permet d'être moins dépendante de l'acquisition. Ce qui fait que ces marques-là peuvent permettre d'opérer avec des costs à 10% ou 15%, alors que d'autres qui sont plus jeunes, qui ont besoin de faire beaucoup d'acquisitions, se permettent d'avoir des costs qui sont beaucoup plus élevés à 25 ou 30%. Donc c'est ça que j'allais vous dire, c'est que plus votre cost il est élevé, plus cela veut dire que votre chiffre d'affaires dépend de votre investissement publicitaire. Et le cost, donc vous pouvez piloter du même principe que sur le MER. Admettons que vous fixez un cost maximum à ne pas dépasser de 20% sur le mois de septembre. Alors, si vous êtes en dessous de 20% à la mi-septembre, ben vous allez potentiellement augmenter vos budgets puisque vous dites « Ok, je suis à 17%, je peux aller jusqu'à 20%, donc je vais augmenter mes budgets pour aller chercher des nouveaux clients, enfin aller chercher plus de nouveaux clients, augmenter mon chiffre d'affaires et me rapprocher le plus possible de cette target de 20% de chiffre d'affaires que je suis prêt à dépenser en acquisition. » Bon, j'espère que ça fait sens jusque-là maintenant. Et le dernier que j'allais vous présenter, c'est la répartition de chiffre d'affaires entre nouveaux clients et anciens clients. C'est quelque chose que j'aime bien regarder aussi quand j'analyse un e-commerce pour la première fois. C'est est-ce que ça dépend plus de l'acquisition ou de la rétention? Alors évidemment, on voudrait tous que la part de revenus de clients existants soit très élevée ou augmente sans cesse. Mais ce n'est évidemment pas toujours le cas parce que ces indicateurs sont grandement influencés par notre produit. Donc c'est-à-dire que pour un business qui a un produit qui est non récurrent, donc par exemple je vends des sièges ballons, évidemment les sièges ballons on va pas en acheter toutes les semaines, ni tous les mois, ni même tous les ans, parce que ce qu'on veut c'est le garder le plus longtemps possible, eh bien on sait que ce genre de business va avoir une rétention qui est assez faible, peut-être 5, peut-être 10%, et donc il faudra miser plus sur de l'acquisition. Donc ça c'est des business qui sont très dépendants de l'acquisition et qui vont du coup avoir un MER New Customer qui va être très proche du MER global. À l'inverse, un business comme, comme NutriPure, par exemple, qui vend des compléments alimentaires, il est beaucoup plus drivé par la rétention et est donc moins dépendant de l'acquisition. Bien sûr, on veut toujours faire de l'acquisition, mais on est moins dépendant de cette acquisition-là parce qu'on a une part de revenus qui est influencée par la part de revenus de clients existants. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que NutriPure, justement, pourrait se permettre de payer plus cher pour un nouveau client parce qu'ils savent que leurs clients vont recommander par la suite et ils savent également prédire la lifetime value d'un client. Quand un client rentre chez nous, on sait que sur sa durée de vie de 2 ans, il va dépenser pour 250 euros. Donc, nous, on est prêt à payer, par exemple, 40 euros pour aller chercher ce nouveau client. D'accord. Et donc, ça, c'est l'avantage d'un business où vous avez une forte LTV et un fort taux de récurrence. Bah, c'est que vous pouvez vous permettre de payer plus pour une acquisition. Alors, au niveau de comment suivre son évolution, donc au niveau de cette répartition entre nouveaux clients et anciens clients, évidemment, regardez là mois par mois et voyez comment elle évolue. Donc, si vous avez un business qui est jeune, vous allez voir que ça va évoluer assez vite. Vous pourrez remarquer qu'il y a 6 mois, vous avez seulement 20% de ventes récurrentes et 6 mois plus tard, vous avez 25%. Autre point, c'est que vous pouvez également observer des mois où la part de vente de clients existants est plus importante que d'habitude. Et l'important, c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a causé cette hausse. Est-ce que c'est une promo? Est-ce que c'est la saisonnalité? Est-ce que c'est des emails que vous envoyez à certaines périodes de l'année? Est-ce que c'est parce que vous avez eu beaucoup de clients il y a 3 mois et vous vendez des cures et que justement 3 mois plus tard c'est la fin des cures et donc une partie de ces clients-là rachètent des cures? Donc il faut comprendre en fait pourquoi dans certains cas vous voyez une forte hausse de votre pourcentage de vente de clients existants. Mais en tout cas il faut le surveiller et il faut voir à quel point ça évolue. Et encore une fois, on pourrait se dire attention, si on a un business qui est très très dépendant de l'acquisition et d'un seul coup on a eu beaucoup de ventes qui viennent de d'anciens clients, c'est une bonne chose, mais en soi pas forcément, puisque ça veut dire que on aurait peut-être pu faire encore mieux et aller chercher plus de nouveaux clients, vous comprenez, pour avoir une part de clients existants qui est moins importante que d'habitude. Bon, là, je commence à aller vraiment un peu trop loin, je pense. Et je termine par encore 2 indicateurs que j'avais oublié de vous citer. Il y a la lifetime value, donc la LTV. Donc là, je vous donne la formule, mais c'est très difficile de l'estimer. C'est simplement prendre le panier moyen d'achat, le multiplier par la durée de vie estimée du client et le multiplier par sa fréquence d'achat. Donc c'est une formule qui est assez facile à dire à l'oral, mais après, pour trouver les réponses à durée de vie estimée et fréquence d'achat, c'est très difficile. Heureusement, il y a des outils qui vous permettent de l'estimer en faisant des analyses par cohorte, notamment Polar Analytics ou Lifetime. Autre point, vous pouvez estimer cette LTV sur 6 mois ou une année pour commencer, parce que comme vous le savez, il est très difficile de connaître la LTV sur plusieurs années, étant donné que cela va dépendre de la durée de vie de votre business. Si votre business existe depuis 3 ans, vous ne pouvez pas forcément savoir la LTV de vos clients après 5 ans. Vous pouvez peut-être regarder sur 1 an ou sur 2 ans et vous faire une première estimation, mais ça va être un peu difficile de le faire sur plus de temps. Et enfin, on va avoir comme un dernier indicateur que vous pouvez regarder pour mesurer la santé de votre business, c'est le ratio LTV-CAC. Donc c'est simplement prendre la LTV divisé par le coût d'acquisition client. Et ce que vous voulez, c'est être idéalement au-dessus de 3, parce que là, ça veut dire que quand vous payez pour un de vos clients, par exemple 20 euros, vous savez qu'il va vous rapporter au moins 60 euros, voire 80 euros. Et donc, ça veut dire que vous avez un business qui, sur le futur, vous rapporte de plus en plus d'argent. Et évidemment, plus ce ratio est élevé, mieux c'est, comme je vous le disais. Donc ça, c'est plus quelque chose que vous devriez suivre au trimestre ou à l'année, parce que ça, à mon avis, ça évolue pas tant que ça d'un mois à l'autre. On passe maintenant au troisième type de données que je voulais vous présenter, mais que vous connaissez déjà assez bien si vous écoutez ce podcast, c'est les données qu'on retrouve dans les plateformes d'ads. Donc pour moi, il y en a 4 qui permettent d'évaluer la performance de nos investissements. Il va y avoir le budget qu'on a effectivement dépensé sur Facebook ou sur Google. On va avoir le chiffre d'affaires qui est généré et qui est attribuable aux campagnes sur base de la fenêtre d'attribution de la plateforme. Donc par exemple, 7 jours clics, 1 jour vu. On va avoir le ROS du compte, donc le retour sur investissement publicitaire, et on va avoir le CPA des campagnes. Donc ça, généralement, c'est les 4 données qu'on analyse pour se dire, ok, est-ce que j'ai une bonne campagne ou est-ce que j'ai pas une bonne campagne? Mais le grand problème de ces données-là, je pense que vous les connaissez maintenant, c'est que elles sont un peu biaisées et elles biaisent l'analyse. Je m'explique. Premièrement, on a les cookies avec les bloqueurs de publicité et avec les navigateurs qui les bloquent par défaut, comme Safari, ou qui vont limiter leur durée de vie. Je sais que sur Safari, ça limite les cookies à 7 jours, je pense, ou 3 jours, je ne sais plus exactement. Eh bien, ça va réduire la qualité de la donnée. Donc, ça veut dire que votre donnée, elle n'est pas forcément complète. Aussi, l'attribution multiplateforme est très complexe à suivre. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver avec des ventes qui vont à la fois être attribuées à Meta et à Google. Et donc, si vous regardez le total des ventes entre Meta et Google, vous additionnez ces 2 totaux et vous pourriez voir qu'il est supérieur aux ventes réelles sur le site. Ce qui pose quand même un problème, puisque comme je vous le disais, les plateformes peuvent s'attribuer 2 fois la même vente. De plus, l'attribution intra-plateforme est fausse, notamment sur Google, où j'ai cru comprendre que Google ne remonte pas forcément les conversions dans les bonnes campagnes, donc ça peut être un problème. On a aussi un autre problème, c'est que les plateformes comme Facebook ou Google Ads font de la modélisation. Donc en d'autres termes, ces plateformes font une estimation de vos ventes et cette estimation ne tient pas toujours la route. On a aussi le fait que le RGPD bloque entre, on estime entre 30 et 60% des données qui remontent. Et enfin, ça c'est le plus important, c'est que ces données ne disent rien, donc les données de ROS ou de CPA ne disent rien sur la rentabilité réelle de nos investissements. Pourquoi ? Parce que le ROS peut être boosté par une grosse opération marketing qui a généré de nombreuses ventes de clients existants qui ont vu les pubs ou qui ont cliqué sur celles-ci, mais qui en soi auraient acheté qu'elles aient vu ou non la publicité. Ou alors, on a encore eu ça récemment pour un client. Le client a fait une très grosse vente B2B, donc ça a fait augmenter fortement le ROS. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a été meilleur en publicité que le mois dernier ? Pas forcément. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le ROS, malheureusement, on ne peut plus faire confiance à cette métrique-là parce qu'il y a tellement de problèmes, que ce soit au niveau de la donnée qui est incomplète, les problèmes d'attribution, le fait, comme je vous le disais, que ça va prendre également en compte des ventes qui auraient eu lieu sans que la personne voit la publicité ou clique dessus, qu'il y a tellement de choses. Et enfin, le dernier truc que j'ai oublié, c'est que les plateformes s'attribuent deux fois la même vente. Ça, c'est le pire, je pense. Et donc, c'est pour ça que vous devez regarder les choses du point de vue global avec ce que je vous ai expliqué, les analyses de NCAC, de CAC, de MER et de MER New Customer. Regardez les quatre, c'est le plus important. Et prenez vos décisions, si possible, en regardant votre NCAC ou votre MER New Customer, parce que c'est le plus important. Si vous êtes en dessous de votre NCAC, vous augmentez vos budgets. Idem avec le MER New Customer, si vous êtes au-dessus de votre MER New Customer, donc c'est-à-dire que vous êtes sur un ratio d'investissement qui est supérieur à celui que vous voulez avoir. Par exemple, vous voulez avoir un 4 et vous êtes sur 5, vous pouvez vous permettre d'augmenter l'investissement tant que vous êtes au-dessus de 4 de MER New Customer ou MER Global. Enfin, ça, c'est un peu vous qui pilotez comme vous le souhaitez. Mais c'est ça que je voulais vous dire. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus regarder ces indicateurs du point de vue global que regarder uniquement votre ROS. Pour autant, vous allez comprendre qu'on regarde quand même les ROS et les CPA pour prendre des décisions au sein de la plateforme. Donc voilà, maintenant vous connaissez tous les indicateurs business, e-commerce et ads. Il y a une erreur que je voulais vous citer et que vous devriez vraiment éviter de faire, c'est d'analyser les mauvais indicateurs ou pas dans le bon ordre et donc de prendre des mauvaises décisions d'investissement. Donc tout d'abord, je vous conseillerais toujours de commencer par analyser les métriques qui ne mentent pas pour une vision globale de la performance de vos campagnes, c'est-à-dire vos données business. Donc chiffre d'affaires hors taxes, est-ce que vous êtes meilleur que le mois dernier et que l'année précédente? Investissement pub, ça ment pas. Combien vous avez investi sur les plateformes Facebook et Google à la moitié du mois? Et est-ce que vous pouvez vous permettre d'investir plus en analysant votre MER, donc chiffre d'affaires hors taxe divisé par investissement pub, ou votre MER New Customer? Si vous avez un petit doute, vous regardez également le MER New Customer, donc c'est-à-dire chiffre d'affaires hors taxe nouveau client divisé par investissement pub. Regardez également le nombre de nouveaux clients. Est-ce que ça suit la tendance qu'on s'est fixée en début de mois? Admettons que vous voulez faire 1200 clients sur le mois de septembre, 1200 nouveaux clients, vous êtes à 500 le 15 septembre, potentiellement vous devez investir plus les 15 prochains jours parce que vous êtes en retard sur l'objectif de 1200 que vous êtes fixé, tout en prenant en compte que idéalement vous soyez sur un MER qui est au-dessus que votre MER que vous êtes fixé au départ. Donc ça va dépendre de votre marge brute, on ne va pas le calculer aujourd'hui. Ensuite, on va regarder le NCAC, donc le coût d'acquisition de nouveaux clients. Donc admettons, on se retrouve au 15 septembre, on remarque qu'on a 500 nouveaux clients par rapport aux 1200 qu'on s'est fixé, mais on constate que notre NCAC, il est plus bas de 30%. Ça veut dire qu'on peut drastiquement augmenter notre investissement publicitaire pour aller rattraper notre retard. Et enfin, la MC2, donc marge contributive 2, que je vous conseille de regarder à la moitié du mois et à la fin du mois. Donc vous prenez votre marge brute et vous retirez l'investissement publicitaire et vous regardez est-ce que vous êtes au-dessus de 25 ou 30% ou 35%. Enfin, ça dépend un peu de la limite que vous êtes fixé. Donc ce que j'aime beaucoup avec ces données, c'est que vous l'avez compris, elles ne sont pas soumises à des biais de tracking et c'est donc celles-ci qu'on regarde en premier au global pour évaluer si on est en capacité d'investir plus ou moins sur les régies. Donc on va regarder, comme je vous le disais, le MER et le MER New Customer, et si on fait suffisamment d'acquisition ou non par rapport à nos objectifs. Et donc là, on va regarder le coût d'acquisition de nouveaux clients, on va regarder le MER New Customer et le nombre de nouveaux clients. Bon, je pense que là, vous commencez à bien comprendre là où je veux en venir. Mais par contre, la question la plus compliquée à répondre, ce n'est pas forcément de savoir si on peut investir plus ou moins sur les plateformes, mais plutôt sur quelle régie, sur quelle plateforme augmenter ou diminuer le budget, sur quelle campagne dépenser plus et quelles sont les créas les plus performantes. Et c'est là qu'interviennent enfin nos données intra-plateforme. Donc cette fois-ci, les données, vous le savez, elles sont soumises à des biais de tracking, mais pour autant, elles permettent de guider nos décisions de media buying au niveau campagne, audience écrire. Ces données, on va les diviser en trois tiers. On va avoir les indicateurs de performance, donc c'est-à-dire le ROAS, donc Return on Ad Spend, le CPA, donc le coût par achat qu'on s'est fixé. Attention, le coût par achat est différent du coût d'acquisition, mais il est nécessaire aussi pour évaluer la performance d'une créa. En tout cas, on le regarde beaucoup pour faire nos décisions de couper ou non une créa. D'accord ? Donc, parce que je peux vous le donner d'ailleurs. Pour une créa, généralement, on se fixe maximum de dépenser deux fois le CPA cible. Et si on a dépensé plus de deux fois le CPA cible et qu'on n'a pas de conversion, ou qu'on a un CPA qui est trop élevé, on va couper la créa simplement et la remplacer par une autre. Donc si je reviens sur le ROAS et le CPA, ce sont deux indicateurs qui vont nous indiquer froidement si la performance d'une campagne, d'une audience ou d'une créa est bonne. Donc on va se fixer des targets, donc des cibles à atteindre et respecter pour prendre des décisions de media buying qui sont efficaces. Je ne vais pas y revenir, on a déjà fait des podcasts là-dessus, je pense qu'on pourra vous le mettre dans les notes de l'épisode, on a un podcast dans lequel je vous explique comment calculer votre CPA cible et votre ROAS cible. On vous le mettra dans les notes de l'épisode. Mais en tout cas, une fois que vous avez vos targets, vous allez simplement voir si vous êtes au-dessus ou en dessous de la target et voir si vous pouvez vous permettre d'augmenter le budget d'une campagne ou de couper une campagne ou de couper une créa ou d'augmenter le budget d'une audience. Ça dépend encore une fois de la décision à prendre. Ensuite, on va avoir les indicateurs secondaires qui, eux, nous permettent de comprendre l'histoire derrière une bonne ou une moins bonne performance. Donc on a deux types de données secondaires. On va avoir les données un peu plus haut de funnel, donc c'est-à-dire on a trois qu'on regarde beaucoup, le coût par ajout au panier, le taux de conversion, donc achat divisé par clic, et le panier moyen d'achat. Et donc par exemple, on pourrait identifier qu'une campagne fonctionne moins bien qu'une autre parce que le panier moyen d'achat il est moins élevé que d'autres campagnes qui ont finalement des indicateurs de diffusion assez équivalents, donc même CTR, même CPM, même CPC. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait identifier, c'est qu'il y a un problème au niveau du produit qui est mis en avant dans la campagne parce que ce produit ne rapporte pas autant d'argent que d'autres produits qui sont mis en avant dans d'autres campagnes. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire potentiellement comme decision? C'est de baisser le budget de cette campagne et d'investir plus sur les autres campagnes qui ont des meilleurs paniers moyens d'achat et donc des meilleurs ROAS que l'autre campagne. D'accord? On pourrait par exemple observer autre chose. On pourrait regarder le taux de conversion et on pourrait remarquer que le taux de conversion baisse sur toutes les campagnes. Donc, c'est-à-dire qu'on voit, notre ROAS qui a baissé ces derniers jours. Et quand on fait l'analyse, on voit que au niveau CPM, au niveau CTR, au niveau CPC, on est bon. Par contre, on observe que le taux de conversion a diminué sur toutes les campagnes. On voit aussi au niveau business que notre MER diminue. Donc quand on a un cas comme celui-ci, ça veut dire qu'il faut baisser les budgets. Parce qu'en ce moment, ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que le site a un problème. Peut-être que ce n'est pas la bonne saisonnalité. Peut-être que nos clients ont un peu moins d'argent. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser les budgets. Donc vous voyez que finalement, tout est un peu lié. On pourrait observer que notre MER diminue. Mais quand on va regarder les choses au niveau campagne, on observe que finalement, nos campagnes roulent bien, tournent bien. Par contre, on voit que le taux de conversion, malheureusement, sur toutes les campagnes et sur les plateformes, il diminue. Donc ça veut dire que très clairement, on a un problème de, comme je vous dis, de saisonnalité ou d'offres. Ça peut être vraiment lié à beaucoup de choses, mais qui sont extérieures, comme je vous le disais, aux campagnes. Et enfin, donc une fois qu'on a regardé tout ça, qu'on a regardé le coût par ajout au panier, le panier moyen d'achat, le taux de conversion et qu'on est fixé par rapport à ça, on imagine que tout est bon à ce niveau-là. Eh bien, si on voit qu'il y a toujours des problèmes, qu'on voit qu'on n'arrive toujours pas à expliquer pourquoi notre ROAS il a diminué ou pourquoi notre CPA a augmenté, eh bien, on va regarder les indicateurs de diffusion. Et donc ça, c'est quelque chose qui est directement lié à nos campagnes, à nos audiences et à nos créas. Donc, je vais vous en donner quelques-uns. On va d'abord avoir le CPM qui est le coût par mille impressions. Donc c'est une métrique où on n'a pas tellement d'incidence dessus, à part au niveau bien sûr de la taille de l'audience et de la qualité des créas. Mais ce qu'on veut simplement comprendre, c'est si on a une moins bonne performance au niveau du ROAS, est-ce que ça peut être lié au fait que notre publicité nous coûte plus cher à la diffusion? Premièrement, oui, non. Si c'est oui, peut-être qu'on peut faire quelque chose, mais peut-être que non. Et donc c'est ça qui est un peu embêtant avec cette métrique-là, c'est que a priori, si vous avez les bonnes audiences, les bonnes créas, et que du jour au lendemain, les CPM ils doublent, c'est pas forcément de votre faute. Ça peut arriver. Taux de clic, donc CTR, donc là, sur le coup, on a une incidence dessus parce que si notre taux de clic diminue, alors là, potentiellement, ça voudrait dire qu'on commence à avoir de la fatigue publicitaire ou que les créas qu'on a lancées, malheureusement, elles plaisent pas. Ensuite, on va avoir le coût par clic. Alors ça, évidemment, c'est un truc qu'on regarde beaucoup de notre côté, c'est si nos clics nous coûtent de plus en plus cher d'un mois à l'autre ou d'une semaine à l'autre, c'est que forcément on a un problème. Soit notre diffusion nous coûte plus cher, ou soit notre diffusion ne coûte pas forcément beaucoup plus cher, mais notre CTR a diminué, ce qui vient augmenter notre coût par clic. Donc si nos clics nous coûtent plus cher, même si on a le même taux de conversion, eh bien notre rentabilité va diminuer puisque malheureusement un achat va nous coûter plus cher vu qu'on paye plus cher pour amener des gens sur notre site. Donc vous voyez que tout est lié. Et enfin, je vous en donne encore trois. On va avoir le hook rate qui consiste à prendre les vues de vidéo à 3 secondes divisées par les impressions. On va avoir le hold rate, donc qui consiste à prendre les true plays qui sont des vues de vidéo à 15 secondes ou des vues de vidéo complètes si on a une vidéo qui dure moins de 15 secondes. Et on va le diviser par les impressions. Et on va voir la répétition qui va être les impressions divisées par la couverture. Donc, un exemple, on pourrait se dire, OK, ben notre CTR, on voit qu'il diminue depuis quelques jours, mais c'est peut-être lié au fait que la répétition sur nos pubs, elle est extrêmement élevée et que malheureusement, en fait, on finit par saturer un peu notre audience avec nos pubs. Et donc, quand je parle de ces indicateurs-là, très clairement, vous comprenez que c'est des indicateurs sur lesquels on peut commencer à se triturer l'esprit parce que y a tellement de choses qu'on peut analyser, tellement de choses qu'on peut interpréter que parfois, on s'y perd un tout petit peu. Donc, je vous conseille vraiment de pas non plus trop vous concentrer dessus. Moi, je vous dirais que ces indicateurs-là nous permettent simplement de comprendre mieux pourquoi quelque chose marche ou pourquoi quelque chose ne marche pas. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se concentrer sur la base, donc les paniers moyens d'achat, les taux de conversion, comment diminuer le coût par ajout au panier. Bien sûr, il y a des moyens d'augmenter notre CTR et des moyens d'augmenter notre hook rate, notre hold rate, mais comme je vous disais, c'est des choses qui nous permettent de mieux comprendre l'impact de nos créas. Qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne créa ou qu'est-ce qui fait qu'on a une mauvaise créa. Et comme je vous le disais, il y en a d'autres comme le CPM où là, très clairement, ça, c'est difficile vraiment de trop l'impacter parce qu'on pourrait se rendre compte qu'on a une performance qui baisse au global parce que nos CPM, ils ont doublé alors que tous les autres indicateurs n'ont pas ou peu bougé. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Soit on attend, soit on essaie de relancer les campagnes. Il n'y a pas beaucoup plus de choses que vous pouvez faire. Autre chose, on pourrait évaluer qu'une publicité vidéo, elle génère un très bon hook rate, mais un mauvais hold rate qui peut expliquer son ROS plus bas que d'autres vidéos qui ont des hook rates au même niveau. Donc vous faites des analyses qui sont un peu plus complexes, mais qui, encore une fois, nous permettent de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une créa marche ou ne marche pas. Mais je le répète, on regarde ces indicateurs en dernier parce qu'ils nous permettent de comprendre pourquoi quelque chose marche ou ne marche pas. Mais on ne prend pas de décision d'investissement en fonction de ces indicateurs de diffusion. Et c'était justement l'erreur que j'aimerais bien que vous puissiez éviter, c'est de trop donner de l'importance à ces indicateurs-là. Les indicateurs les plus importants, c'est, en tout cas au niveau de vos campagnes sur Facebook et sur Google, c'est le ROS, c'est le CPA, et ensuite les indicateurs secondaires comme le coût par ajout au panier, le taux de conversion ou encore le panier moyen d'achat. C'est ces indicateurs-là sur lesquels vous pouvez avoir une influence, ou en tout cas comprendre qu'est-ce qui peut vraiment poser problème sur le site. Mais par contre, les indicateurs que vous devez regarder en priorité pour prendre vos décisions d'investissement, ça va être les indicateurs de performance et les indicateurs secondaires. Performance étant ROS et CPA, et secondaire étant coût par ajout au panier, taux de conversion et panier moyen d'achat. Où là, on peut prendre beaucoup plus de décisions en regardant d'un peu plus près ces indicateurs. Et voilà, je pense vous avoir tout dit par rapport à toutes ces données business, donc j'espère que c'était clair. C'était pas un épisode facile, c'est un épisode assez complexe parce que, évidemment, c'est un thème qui n'est pas facile puisqu'on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup d'indicateurs et on a tellement qu'il faut savoir choisir les bons indicateurs au bon moment pour prendre les bonnes décisions. Si jamais vous avez des difficultés ou des choses que vous comprenez pas bien ou que vous aimeriez vous faire accompagner à ce niveau-là, vous n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn ou par email et je me ferai un plaisir de vous aider à ce niveau-là. Et comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide pour scaler vos campagnes, n'oubliez pas qu'on propose des audits gratuits de votre compte publicitaire. Donc là, pareil, vous m'envoyez directement un message sur LinkedIn ou vous remplissez notre formulaire de contact sur le site de DHS et je vous recontacte pour un appel visio. Merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.
Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.